Bien, bonjour à tout le monde. Hein.
Shavua Tov.
Ben voilà, nous allons donc continuer avec courage notre étude du Likutey Moharan et je pense que nous sommes en plein milieu de la Torah d'Aleph qui s'appelle Anochi Hashem Elohecha. Je vous ai dit que c'est un peu long, mais c'est important. Voilà. Tout d'abord, je rappelle le thème général. Anochi Hashem Elohecha. Alors, je suis l'Éternel ton Dieu, insistance de Rabbi Nachman, c'est quoi Hashem Elohecha? Hashem, c'est Midat HaRachamim, c'est la miséricorde, et Elohecha, c'est la Midat HaDin, la rigueur. Et Anochi, ça veut dire que c'est le même, c'est-à-dire sans dualisme, parce qu'on pourrait évidemment imaginer qu'il y aurait un Dieu de la miséricorde et un autre le Dieu de la rigueur et qu'il y aurait une lutte entre eux. Eh bien, ce que la révélation de Anochi Hashem Elohecha nous révèle, c'est qu'en fait, non seulement c'est le même Dieu, mais il se manifeste toujours de la même manière dans les différentes modalités. C'est-à-dire, quand nous voyons la rigueur, il faut savoir que c'est de la miséricorde cachée, et non pas un opposant de la miséricorde. C'est comme, par exemple, une punition donnée par un père à son fils, c'est évidemment pas par méchanceté ou par inimitié, mais bien par pitié, pourrait-on dire. Donc, il y a aussi tout un travail qui est de savoir comment réaliser l'unité entre la Midat HaDin et la Midat HaRachamim. Deuxième point que nous avons déjà évoqué, c'est cette idée que les péchés sont inscrits sur les os, un os pluriel des os. Et ça veut dire que le péché touche à l'essence de l'homme. Etzem, un os, ça veut dire également l'essence, atzmiut en hébreu. Il y a tout un travail qui est de et ces péchés sont écrits sous forme de lettres. C'est quoi des lettres? Des lettres sont des volontés. C'est pas le mot hot qui vient du verbe iva qui veut dire vouloir. Alors les lettres se manifestent comme étant une volonté déplacée, pas au bon endroit. Et donc, se débarrasser du péché, c'est se débarrasser des lettres. Comment fait-on pour se débarrasser des lettres? Il y a pour cela une stratégie qui est la parole. La parole, c'est le vidouille, c'est le fait d'avouer sa faute, et c'est ça qui nous libère. Maintenant, il y a ici une innovation de Rabbi Nachman de Breslav, c'est que cette libération de la parole, cette libération du péché par le biais de la parole, se fait par l'aide d'un sage, d'un Talmid Chacham. Alors, on pourrait, si on était vraiment superficiel, comprendre que ça ressemble à la confession dans le christianisme, ça n'a absolument rien à voir. Dans le christianisme, la confession fait partie de l'expiation, ça fait partie de la, si on peut dire, de l'humiliation qu'on doit passer pour expier son péché, tandis que chez Rabbi Nachman, le vidouille devant le Talmid Chacham a pour but de se transformer. C'est-à-dire, le Talmid Chacham entretient un dialogue qui va permettre au pécheur de se libérer de son péché. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire de Midat HaRachamim et de Midat HaDin? Ça, on le verra par la suite. Mais en tout cas, il y a ici cette idée très importante, donc, de qu'est-ce que c'est que la rencontre vivante entre un homme qui a ses problèmes, qui a ses péchés, et le Talmid Chacham qui est là pour l'aider à s'en débarrasser. Le Rabbi Nachman emploie ici une terminologie qui est celle de la Kabbalah, qui est en expiant son péché, on contribue à faire sortir la malchoute, c'est-à-dire la royauté, des clipotes, c'est-à-dire des écorces, c'est-à-dire des forces du mal. C'est-à-dire dans les forces du mal, il y a un mélange d'étincelles de sainteté qui sont enfouies à cause de nos péchés. Et en faisant le vidouille devant le Talmid Chacham, il y a toute une stratégie qui va permettre justement de faire sortir la sainteté du sein des clipotes. Voilà. Et ça, c'est ce que nous voyons ici dans le texte que Yaakov nous a présenté, Veze Bechinat Achzarat Amalchut. Et c'est comme ça que l'on ramène la Malchut à son origine. La Malchut, c'est-à-dire. Là, oh, excusez-moi, j'ai oublié de débrancher mon téléphone. La malchoute, c'est-à-dire la royauté de Dieu, qui est enfouie dans les clipotes, qui alimente les civilisations des goïms, il faut faire sortir la malchout et la ramener à sa racine. Qui shoresh a malchout ou esh? Parce que la racine de la malchout, c'est le feu. Bon, le feu, il ne s'agit pas du feu physique, il s'agit du feu symbolique. La malchout, donc la royauté, le pouvoir ressemble au feu. Comme l'ont dit nos sages, dont le souvenir est une bénédiction. Lamata Nevat. Pourquoi est-ce que Nevat, c'est le père de Jéroboam. Jéroboam était le roi d'Israël qui a fait le schisme contre le royaume de Judée. Et il a été d'ailleurs encouragé pour cela par le prophète Achia Shiloni. Son père, le père de Jéroboam, Nevat, avait déjà tenté de se révolter contre David une génération auparavant. Il s'était trompé. C'était le fameux donc Sheva ben Bichri qui s'était révolté contre le pouvoir de David. Finalement, il s'est fait tuer, mais son fils Jéroboam, lui, a réussi à devenir roi d'Israël. Alors, en quoi était l'erreur de Nevat? Shera esh sheyatza esh me amato. Pouvez-vous expliquer plus en détail le lien entre la malchoute et le feu, s'il vous plaît? Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le feu, ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie. L'énergie, l'intériorité de tous les éléments. Et la malchoute, c'est également l'élément général qui va inclure tous les autres éléments de la société. Voilà, on peut dire ça. Également, le pouvoir est fort. Le feu est fort. De tous les éléments, c'est l'élément le plus fort. Voilà. Alors donc, Lamata Nevat, comment est-ce que Nevat a pu penser qu'il allait devenir roi? Shira'a Shiatsa Eshmeamato, quand il a vu du feu sortir, excusez-moi, de son membre viril, il n'a pas compris que ça concernait son fils et pas lui-même. La Torah nikret esh et misham amalchut. La Torah aussi est appelée feu parce que c'est d'elle que vient la royauté, que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Allo kodevari ka esh. Voici que ma parole est semblable au feu. Urtiv bi melachim imlochu. Il est dit, c'est de par moi, c'est la Torah qui parle, que les rois règnent. Ça veut dire qu'il y a dans la Torah un élément de souveraineté qui se cache dans la Torah. Donc la malchut, qui est du feu, vient de la Torah, qui est du feu. Ve'aikar haTorah est l'essentiel de la Torah. Ahem, matalmidei chachamim, ce sont les sages. Kemo she'amru chachamenu zichronam livracha, comme on dit les sages. Kama tipcha'e de kayima mikame sefer Torah, ve'la kayima mikame tzurva midrabana. Combien sont bêtes ceux qui se lèvent devant un sefer Torah, mais ce ne se lève pas devant un sage. Vezeu kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh. Tout objet qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu. De quoi s'agit-il? Il s'agit là-bas du butin. Après la guerre de Midian, le butin devait être purifié de l'impureté des Midianites. Et tout ce qui pouvait donc passer par le feu devait passer par le feu. Davar, mais là-bas, l'expression employée, c'est le mot davar. Davar, ça veut dire non pas seulement un objet, comme en hébreu moderne, davar veut dire une parole. Donc, davar zebirinat malchut, le mot davar signifie la malchut, shenimshach betor hatum'a, qui est enfoui au sein de l'impureté, betor hamimut ayetzer, dans l'échauffement des passions. Kemo Noura Be'Amram, ainsi qu'on a vu par exemple l'histoire du feu dans la maison d'Amram. De quoi s'agit-il? Il s'agit là-bas d'un maître du nom de Rabbi Amram, le Chassid, qui avait racheté des captives juives qui avaient été en captivité chez les Goïms. Il avait ramassé donc de l'argent pour les libérer et il les a introduits dans sa maison. Comme il était seul et que c'était des femmes, pour ne pas tomber dans le Yetzer Hara, il a crié au feu chez Amram, Noura be Amram. Et c'est comme ça qu'on est venu le voir. On lui a dit, mais tu n'as pas eu peur de ta honte. Il a dit, je préfère avoir honte une heure dans ce monde qu'avoir honte éternellement dans le monde à venir. Donc le mot Esh, le feu, désigne ici déjà trois choses. Ça désigne la Torah, ça désigne la Malchoute et ça désigne également le Yetzer Hara, l'échauffement du Yetzer Hara. Ta'aviru ba'esh. Alors quand la Torah dit tout ce qui passe par le feu, vous le ferez passer dans le feu. Ta'aviru ba'esh, tikuno al yedesh. C'est-à-dire qu'il sera réparé par le feu. C'est quoi le feu? Haynu, vidui, devarim, lifnei tanit chacham kanal, c'est-à-dire avouer son péché devant un sage, comme nous l'avons dit. Tout ça, si vous voulez, à la limite, ça, on pourrait s'en passer, mais c'est important quand même. Ça veut dire que Rabbi Nachman nous explique son monde de symboles. Il y a des symboles. Le feu représente le chacham, représente le vidouille, représente le péché, représente la malchoute. Vezeleshon avera. Et c'est ça qu'on entend par le mot avera, qui veut dire une transgression. Ça veut dire quoi? Une transgression. Shatzeruf shel avera. Au verbe tor atzmotav me ever el aver. C'est-à-dire que l'assemblement des lettres qui forment le péché passe. C'est-à-dire le mot avera, qui veut dire transgresser, veut dire également passer. Ça passe dans ses ossements d'un côté à l'autre. Ou mitzvah, par contre, le mot mitzvah, un commandement, leshon itrabrut, veut dire se lier, s'assembler. Par exemple, une équipe en hébreu moderne se dit tsevet. Tsevet, la même racine que le mot mitzvah. Keshe oseh chavilot shel mitzvot, quand on fait un ensemble, un amoncellement de mitzvot. Azay nitrabru shivrei atzmotav. C'est alors que se réunissent à nouveau les débris de ses ossements. Kemoshe katuv shomer kol atzmotav, ainsi qu'il est dit. Il va préserver tous ses ossements. Vezeo perouche, et c'est pour ça qu'il est dit. Hamat melech, malaché mavet. C'est dans le livre de Michelet. La colère d'un roi, ce sont des anges mortels. Ki hamato shel akadosh baruchu, parce que la colère du Saint béni soit-il, bishvil hamalchut shehishpil alidei avonotav, est causée par la malchut qui est abaissée à cause des péchés. Suite du verset, Ve'ish hacham yechaperena, mais l'homme sage pourra l'expier. Haïnu, bechinat talmid hacham, bechinat Moshe, c'est-à-dire celui qui ressemble au talmid hacham, qui ressemble à Moshe, ou yechaperlo, c'est lui qui peut expier, que Moshe katou, ve'over al pesha lish erit. Ainsi qu'il dit dans le livre de Micha, celui qui passe outre au péché, pour le reste. C'est quoi le reste? Les Mishemissim Atzmo Keshiraim, pour celui qui se considère comme un rien, c'est-à-dire l'humble. Nimtsa, Kesheba Lifnet Almitracha. Cela veut donc dire que lorsque l'on vient auprès d'un sage, Umotsi Kol Tsirufav et qu'on évacue tous les assemblements de lettres négatives en présence du Chacham. Vous comprenez que ici, Rabbi Nachman emploie toute une terminologie symbolique, mais c'est très clair finalement ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand on va chez le Chacham pour faire son traitement psychologique, à la limite, le Talmid Chacham ou Bechinat Moshe chez Mitzim Atzmo Kesheraim, et que le Talmid Chacham qui est comme Moshe, qui se considère comme un rien, que Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, Vaish Moshe Anav Meod, puisqu'il est dit de Moshe, qu'il s'est vu comme qu'il se considérait comme étant très humble. Et, non, on a vu que Moshe était très humble, c'est écrit dans le livre de Bamidbar. Valideze nikra ish racham, ce qui lui attribue le titre de homme sage, que Moshe katou ve'a chokhma me'ayin timatzé. Ainsi que dit Yov, la sagesse vient du fait qu'on se considère comme un rien. C'est-à-dire l'humilité est la condition de la sagesse. Uvazé, yeshkoach, le talmid chacham mechaper, et c'est comme ça qu'un sage peut expier, kemo sheneema, veish chacham mechaperena, un homme sage pourra expier. Ubishvilze, Keshit Balel Moshe al Cheta Egel. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Moshe a prié pour la faute du veau d'or, c'est-à-dire pour expier la faute du veau d'or, Amar, alors là, c'est très important. On va voir que le sage n'est pas celui qui, par sa grandeur, est capable d'expier le péché, mais au contraire, c'est le sage est capable, par son humilité, d'expier le péché. Il va amener ici l'exemple. Amar, imtisa hatata vim ain mechenina. Soit tu supportes, c'est-à-dire tu vas pardonner leur péché, et sinon, efface-moi. Et Moshe a demandé à être effacé. Alors, ça veut dire quoi qu'il a demandé à être effacé? Très intéressant. Rabbi Nachman va dire que Moshe a craint d'avoir une petite étincelle, une petite molécule d'orgueil. Et si Moshe a de l'orgueil, il cesse immédiatement, à ce moment-là, d'être le sage. Et donc, il s'est dit que s'il n'arrive pas à expier la faute du peuple, c'est probablement parce qu'il a un sentiment d'orgueil. Et donc, il a demandé à être effacé pour permettre l'expiation du peuple. Pardon. Car il est impossible de ne pas sentir une certaine grandeur, c'est-à-dire de l'orgueil. Quand on entend les gens raconter votre louange. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit, ah, vous êtes quelqu'un de très bien, ça vous fait quelque chose. Kol Sheken, à plus forte raison, Keshemeler Gadol Meshabeach Ufaer et Adam, à plus forte raison quand c'est un grand roi qui va louer un homme. Azaï Bevadaï Milanimna Sheloyavolo Ezegadou. Il est alors absolument impossible de ne pas ressentir un peu d'orgueil. Aval Tsarich Lazé, Bitul Kol Argashota Vechomriota. Mais c'est pour ça qu'il faut annuler tous ses sentiments et toute sa matérialité. C'est alors qu'un homme est capable d'entendre sa louange et de ne pas ressentir de grandeur. C'est bon, mon cher Abednego, comme Moshe, notre maître, Shera Katouf Batora, qui a vu qu'il était écrit dans la Torah. Et ce qui est écrit dans la Torah, je pense que Moshe savait que c'était vrai. Vaidaber Hashem El Moshe. Dieu parla avec Moshe. Vayomer Hashem El Moshe. Et Dieu dit à Moshe. Veyisrael Korim Bechol Yom Batora Shivcho Shel Moshe. Et les Israélites lisent tous les jours dans la Torah la louange de Moshe. Veu Shvachav. Et c'est lui qui raconte dans la Torah, puisque c'est Moshe qui écrit la Torah, il raconte également sa louange. Velo aya le Moshe shumit parut vegadlut mise. Mais Moshe n'a pas ressenti le moindre orgueil, la moindre morgue de tout cela. Que Moshe katouv, ainsi qu'il est dit. Ve'aish Moshe anav me'od. Et ainsi qu'il dit dans la Torah, et Moshe était très humble. Ou bevadai. C'est pourquoi, et donc certainement grâce à son humilité, Moshe avait la capacité d'expier le péché du veau d'or. Ainsi qu'il est dit, l'homme sage peut expier. Et c'est pour ça que Moshe a dit, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire si tu n'acceptes pas de pardonner leur faute, baiser à tamaré chez Nicole Caranimout. Cela va prouver que je ne suis pas si humble que ça. Shouchal et Chaper d'Ahem Avona Egel, au point de pouvoir expier le péché du Vaudor, Bechen Bakashati Mechenina. Et c'est pour ça que je te demande, efface-moi. Kede chez Loé Kachel Begadlout, pour que je ne trébuche pas dans l'orgueil. Shani roev veshomea becholet sipur shmi veshifri batora, parce que je vois à tout moment le récit de mon nom et de ma louange dans la Torah, qui miyucha la mode basée, car qui peut tenir face à ça? Shiisma sipur shifro veloid galé et veloid gaïm lo anav gadol. Comment peut-on entendre le récit de son mérite et ne pas s'enorgueillir, à moins que ce soit quelqu'un de très humble. Im ani anav, et si je suis véritablement humble, dit Moshe, tsarich lecha shekisach atatam. Tu dois donc supporter leur péché, c'est-à-dire pardonner le péché, que Moshe katouv, ainsi qu'il est dit, vover al pécha lish erit. Il pardonne le péché pour celui qui se considère comme rien. Voilà. Donc, nous avons ici cette idée que Moshe a compris que c'est par son humilité qu'il pouvait servir, qu'il pouvait donc mériter le titre d'homme sage qui a la capacité d'expier le péché. Alors là, il y a une petite question très importante qui a été posée par chat. Rav, j'ai du mal à comprendre le lien entre la chochma et la modestie. Il existe des gens intelligents et orgueilleux, non? Très bonne question. La réponse est qu'il y a à ce propos une controverse entre la tradition philosophique et la tradition d'Israël. En effet, c'est vrai que les philosophes aussi recommandent la modestie pour les sages afin d'acquérir la sagesse. Mais ce n'est pas un lien, disons, essentiel. À la limite, on peut être orgueilleux et sage selon les philosophes. Mais la tradition d'Israël dit que c'est une illusion. Il est impossible que quelqu'un soit orgueilleux et ne se trompe pas dans sa sagesse. C'est-à-dire que on peut acquérir de grandes acquisitions de sagesse, même quand on est orgueilleux, mais cela aura une limite. Et obligatoirement, on arrivera à une erreur. Parce que la sagesse, c'est le projet de comprendre les choses telles qu'elles sont. Et donc, pour rencontrer l'essence des choses que j'étudie, je dois effacer ma personne, sinon je fais obstacle. Et quand je fais, et l'orgueil, disons, me gonfle d'une certaine manière, c'est-à-dire ça me donne une certaine consistance, et cette consistance va s'opposer à l'unité de ma conscience avec l'objet de mon étude. Et donc, si je veux véritablement connaître la vérité dans l'absolu, je suis obligé de m'effacer. Alors, quand vous trouvez des gens qui sont intelligents et orgueilleux, vous trouverez toujours qu'il y a une limite à la connaissance de la vérité qu'il y a chez eux. Je ne peux pas ne pas penser, par exemple, au philosophe Spinoza. Spinoza était gonflé d'orgueil. C'est la raison pour laquelle sa philosophie est une philosophie orgueilleuse qui prétend tout définir, y compris la divinité, et introduire la divinité dans les formules mathématiques et géométriques de sa philosophie. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas ne pas se tromper d'une certaine manière. Voilà. Excusez-moi, mais c'est le printemps. Voilà, je continue. Vezé vayi bishurun melech. Et il fut, en Yishurun, Yishurun c'est le nom poétique d'Israël, un roi. Haïnou, chez Malchut ala l'échorcha. Cela veut dire que la Malchut est remontée à sa racine, que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, va'anavim yireshu aaretz. Les humbles hériteront de la terre. Eretz hi dina de malchuta. Or la terre, c'est le lieu de la loi royale, que Moshe katouv eretz mitkomemalo. Bon, alors vous avez ici donc en fait toute cette idée, c'est illustré par différentes citations que il y a un lien entre le chacham, le sage, et l'humilité, et la royauté, et le vidouille. Et donc, ça, là, merci. Et là, ça nous amène à la conclusion comme quoi il faut faire son vidouille devant le Talmid Chacham pour pouvoir faire sortir les lettres qui sont introduites dans les ossements, les lettres du péché qui sont tombées, qui sont introduites dans nos ossements et qui amènent des étincelles de sainteté dans les clipotes, et il faut les faire sortir de là-bas. Voilà. Maintenant, Pour continuer, il serait bon d'avoir, par exemple, le texte. Voilà. Ah, très très bien. Alors là, nous avons ici l'étude d'un texte du traité de Sotta. Le traité de Sotta, c'est un texte un texte assez court. Dans les manuscrits du Chacham Shushani, dont vous avez probablement entendu parler, il dit que c'est le texte le plus important du Talmud. Et donc, de quoi s'agit-il? Machal le'echad, she'aya me'aler baderer bi'ishon laila va'afela. Cela ressemble à un homme qui marchait dans son chemin dans le moment le plus noir de la nuit et de l'obscurité. Umitiare mina kotsim, et il craint les épines. Umina pehatim, et les crevasses. Umihayara'a umilistim. Il craint également les animaux sauvages et les brigands. Ve'eno yodea pe'eze derer mehaler. Et il ne sait pas dans quel chemin aller. Par la suite, alors on dit, quand il arrive à une croisée des chemins, c'est alors qu'il est déjà plus tranquille. Quand il voit l'aube se lever, il est sûr qu'il est sauvé, etc. Kizeyadua, c'est une chose bien connue. Shekol hamidot ra'ot v'toldotehen nimshachim me'arba'a yesodot, que tous les défauts et leurs dérivés ont pour origine les quatre éléments, me'arba'a marot, des quatre bile. Kamuva be'mishnat chassidim, ainsi que c'est amené dans le livre Mishnat chassidim. Bon, alors là, j'ai besoin d'une petite introduction. Il y a toute une psychologie qui a son origine chez les kabbalistes, en particulier chez le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, et qui est également résumée dans le livre de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Hari, qui s'appelle le Sha'arei Kedusha, les portes de la sainteté. Et ce que dit Rabbi Chaim Vital dans Sha'arei Kedusha a été transmis de différentes manières dans le judaïsme européen, entre autres par un livre du nom de Mishnat Hasidim, qui est le premier livre qu'ont connu les Ashkénazes qui réunit les enseignements du Hari. Le Mishnat Hasidim a été écrit par un rabbin italien du nom de Rabbi Immanuel Chayriki. Et donc dans ce livre Mishnat Hasidim, vous avez une traduction de la psychologie kabbalistique. Pour les kabbalistes, il y a dans ce qu'on appelle la nefesh habehemit, c'est-à-dire l'âme animale, la partie donc la plus sensible, également la plus basse de l'être humain, il y a ce qu'on appelle quatre éléments. Les quatre éléments, ça correspond aux éléments de la physique ancienne, le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors, pour Rabbi Chaim Vital, ce qu'on appelle le feu dans l'âme, c'est tout ce qui concerne l'orgueil et la colère. Ce qu'on appelle l'air, c'est tout ce qui concerne les défauts de la parole, le mensonge, le lashon hara, et toutes choses de ce genre, la moquerie. Et l'eau, ça correspond à la recherche des plaisirs, les tendances les plus basses, le désir sexuel, etc. Tout ça, c'est l'eau. Et la terre, c'est la paresse et la tristesse. Voilà, tout ça, c'est une liste des défauts. Vous voyez que la tristesse et la paresse sont considérées comme un mal du point de vue de la tradition kabbalistique. Il y a dans le livre Mishnat Hasidim une traduction, une interprétation de ces quatre éléments comme étant les quatre biles. Il y a effectivement dans la médecine moyenâgeuse, on parlait de quatre biles, la bile blanche, la bile rouge, la bile verte et la bile noire. Par exemple, le mot mélancolie veut dire la bile noire. En hébreu, Mara Shechora. Donc, vous avez une bile verte, une bile rouge, une bile blanche, une bile noire, etc. Et c'est une autre manière de formuler donc les quatre défauts qu'il faut réparer. Voilà. Et donc maintenant nous revenons grâce à Yaakov au texte, Kol HaKavod. Et donc c'est ce qu'il dit, Kizeh Yadua, c'est une chose bien connue, chez Kol Mihamidot Haraot de Toldotem, que tous les défauts et leurs dérivés Nimshachim, Me'arba Yesodot, ont pour origine les quatre éléments, Me'arba Marot, qui en viennent en fait des quatre biles, Kamuva be'Mishnat Chassidim, ainsi qu'il est amené dans le livre Mishnat Chassidim de Rabbi Emmanuel Chayri. Voilà. Alors maintenant, vous avez ici, il fait la petite liste. Atzvut ve'toldotehem, Nimshachim idomem. La tristesse et les dérivés viennent du minéral. Alors là, oui, là, il y a également encore une traduction. Les quatre biles deviennent les quatre niveaux des êtres terrestres. Vous avez donc le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Les minéraux, c'est-à-dire les roches. Comment peut-on comparer les deux éléments de l'eau et du feu à la fois à la Torah et aussi aux racines des mauvaises midot comme la Tetavot ou la Gava? Ah, parce que le vocabulaire des kabbalistes est ce qu'on appelle un vocabulaire pauvre, Kabbalah Aniya. C'est-à-dire que nous employons plusieurs fois des mots dans différentes acceptions. C'est-à-dire, peu importe si le feu a servi dans un texte à désigner la Torah ou bien la malchoute, ou dans un autre à désigner l'orgueil. Peu importe. D'accord? C'est, de toute façon, ça n'a rien de physique. Ce sont des images. D'ailleurs, les psychanalystes, quand ils vous expliqueront l'interprétation des rêves, expliquent également les rêves comme étant un mélange de symboles et que parfois, un objet symbolise une certaine idée dans un rêve peut en signifier autre chose dans un autre rêve. Bon, donc, les quatre éléments deviennent les quatre biles qui deviennent les quatre domaines de la vie, qui sont donc le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. C'est-à-dire le minéral, c'est les roches, le sol. Qu'on appelle domaine, c'est-à-dire qui ne parle pas, qui se tait. Et puis après, vous avez le tsomea, c'est-à-dire le végétal, c'est-à-dire toutes les plantes. Et puis les animaux, ça vous les connaissez, j'appelle un chat, ou une girafe, girafe. Et vous avez également l'être humain, qui est appelé médaber, parce qu'il est doué de paroles. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, Atzvut et Toldoten Nimshachim, la tristesse et ses dérivés ont pour origine le minéral, Taavot Raot et Toldoten Nimshachim, les passions et leurs dérivés viennent du végétal, Devarim Betelim et Toldoten Nimshachim, c'est-à-dire les paroles vaines et tout ce qui en découle ont pour origine l'animal, Gaava vetoldotehem, Nimshachim, l'orgueil et ses dérivés viennent de l'être doué de parole, c'est-à-dire de l'être humain. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a probablement que les hommes qui sont capables d'orgueil. Celui qui veut aller dans le chemin de la sainteté, il doit briser les défauts. Il doit donc raconter ses défauts en avouant ses péchés devant un sage. Et alors le sage devra découvrir et organiser un cheminement qui correspond à la racine de son âme. C'est-à-dire que le Talmid Chacham doit comprendre la personnalité de la personne qui vient le voir et lui trouver un chemin pour s'en sortir, pour se transformer. Donc, on voit bien qu'il s'est en fait, le Talmid Chacham sert un peu de psychologue. Et ça veut dire que il y a il y a un moyen de transformer ces midot ra'ot, ces défauts, de les transformer en qualité. Et cela dépendra de la nature de l'être. C'est-à-dire, est-ce que c'est on est tombé dans la tristesse ou dans l'orgueil ou dans les passions, etc. Veyesh, et là, Rabbi Nachman va entreprendre de nous décrire la manière dont ça se passe chez le Chacham. Veyesh shalosh bechinot ba'itkarvut la'tzadikim. Il y a trois choses à distinguer dans la manière de se rapprocher des tzadikim. Shalosh bechinot elu, car c'est par ces trois manières que tout se répare. Ve'elouhem ashalosh bechinot. Et voici les trois manières. Habechina rishona, la première chose à distinguer, kesheroe tatsadik, c'est quand il voit le sage, quand il voit le tzadik, précisément. Kemoshekatuv, va'yu enecha ro'ot et morecha. Tes yeux verront ton maître. Effectivement, il y a, sur le plan psychologique, la rencontre physique avec l'image du tzaddik. C'est le tzaddik véritable que l'on voit. Ça crée déjà quelque chose dans l'être de la dans l'être avant même qu'il y ait eu une parole. Vezot abechina, et cet aspect-là, mevatelet amidot raot, fait disparaître les défauts. Hanimshachim mishne yesodot domem tzomeach. Ça fait disparaître tout ce qui a pour origine le minéral et le végétal. Hainu, atzfut vetoldotea, vetaavot raot. C'est-à-dire la tristesse et ses dérivés et les mauvaises passions. C'est-à-dire, dès que l'on rencontre le tzaddik, ces problèmes-là n'existent plus. Il n'y a plus de tristesse et il n'y a plus de passion. Qui tzaddik adore. D'ailleurs, j'ai vu une fois un texte de Geoula Cohen, Zichrona Livracha, c'est le grand personnage de l'État d'Israël, qui raconte sa visite chez le rabbi de Lubavitch. Et elle raconte que dans l'antichambre, quand on attend de rencontrer le rabbi, alors on sent ses doutes rougir de honte. C'est intéressant. Bon, je sais pas, à chaque fois que je fais une petite remarque, c'est pas la peine de tout effacer. On peut laisser le texte. Voilà. Et donc, il y a dans la rencontre avec le tzaddik quelque chose déjà qui se crée, on peut appeler ça un élément psychologique, mais c'est réel, qui tzaddik adore nikra em, parce que le juste de la génération est appelé la mère. Al-Shem shu'menik l'Israël be'or Torato, parce que c'est lui qui alimente Israël, qui donne à téter, littéralement, à Israël par la lumière de sa Torah, Ve'a Torah nikret chalav. Or, la Torah est appelée le lait. Vous vous rappelez qu'on avait dit que la Torah s'était appelée le feu. Ben, ça change. De toute façon, on peut passer d'une image à l'autre. Kemoshe Katuv, ainsi qu'il est dit dans le Shir HaShirim, des vaches ve'chalav tahat leshoner. C'est du miel et du lait qui sortent de dessous ta langue. La langue, c'est ce qui permet d'enseigner la Torah. Vezé anuroim bechouch. Or, c'est quelque chose de sensible. Keshe'atinok ou be'atzvut ve'atzlut. Lorsqu'un bébé est dans la tristesse et dans la paresse. Keshe'roé et timo. Quand il voit sa mère. Ou nit enrer bizrizut gadol ikratimo aynu les chorchos. Il est entraîné avec zèle à rencontrer sa mère parce qu'il retrouve sa racine. Son origine. On pourrait presque parler de complexe d'Œdipe. Gamanuroim bechouch, et nous voyons également de manière sensible que chez Atinok osek bidveresh tout chelo, que lorsqu'un bébé se fait des ou un petit gosse fait des bêtises, afalpi shechlo ta'ava gdola leze, bien qu'il est très attiré par ces choses-là, ses jouets par exemple, afalpichem kesheroe et imo. Pourtant, lorsqu'il voit sa mère, ou mashlir kol ta'avotav achar ketefav, il laisse tomber tous ses désirs derrière ses épaules, ou Mosher et Atzmo Leimo et se s'attire vers sa mère. Nimtsa, Shinit Batlim Amidot Raot Shinit Sedot Domem Mitzomer Adli Sakut Bene Atzadik. Et ça explique pourquoi les deux sortes de défauts qui viennent du minéral et du végétal disparaissent lorsqu'on rencontre le visage du tzaddik, un peu à la manière dont un enfant sort de la tristesse ou de ses bêtises lorsqu'il voit sa mère. Vezeu umitiare minakotsim. C'est pour ça que dans l'image amenée dans le traité de Sota, quand il était question de quelqu'un qui marche dans l'obscurité et qu'il craint les épines et les fosses, les épines, shehu bechinat somear, c'est-à-dire ce qui vient du végétal. Les épines, c'est une plante. Ufratim, les trous, shehu bechinat domen, c'est le minéral. Urchenis damen lo avuka shel or. Alors, là-bas, la Guémara dit, si quand on marche dans la forêt, on trouve une torche, avuka shel or, zet al mitracham. C'est le Talmid Chacham, Sheu Avik Beor HaTorah, qui est lié à la lumière de la Torah. Valiado Nitzol Mimidot Raot Shel Shnei Sodot Domem Vetzomea. Et c'est grâce à lui qu'il est sauvé des défauts qui viennent des deux fondements, des deux éléments qui sont le Domem et le Tzomer, c'est-à-dire le végétal et le minéral et le végétal. Et c'est pour ça que la Gemara dit qu'il est sauvé des épines et des trous. Alors là, il y a une petite remarque. C'est, est-ce forcément avec le tzaddik de la génération ou cela est-il valable avec les grands tzaddiks, cette impression de rencontrer sa mère? Bah, disons que vous savez, il y a une expression qu'on a inventée dans la dernière génération, c'est Gdolador, le grand de la génération. Ça veut dire quoi, le grand de la génération? C'est le plus grand. Mais le problème, c'est que à chaque moment donné, vous avez après une quinzaine de personnes qui sont candidats à être le tzaddik. Alors trouvez-le-moi, et alors on pourra donc trancher entre les 15 ou les 20 candidats à être le Gdolador. Évidemment, c'est graduel, c'est pas forcément avec une personne, c'est ce qui représente Moshe. Or, vous avez plusieurs tzadikim dans la génération qui, d'une manière ou d'une autre, sont des facettes de l'identité de Moshe. Abichina, Shnia, et la deuxième distinction à faire, Atzedaka Shenoten le Talmid Chacham. On donne de la charité par l'intermédiaire du Talmid Chacham. Effectivement, c'est le tzadikim. Il y a une coutume, quand on va voir le rabbi, alors, on donne de l'argent. L'argent n'est pas pour le rabbi. L'argent est nécessaire pour les bonnes actions que le rabbi va faire. Il va s'occuper des pauvres, il va s'occuper de l'enseignement de la Torah, etc. Il ne le fait pas pour lui-même, mais ça passe par sa caisse, si vous voulez. Alors, cet acte de tzedaka pour Rabbi Nachman a une signification psychologique. Parce qu'en donnant la tzedaka, alors on se libère des défauts qui sont liés à l'animal et à l'humain. Shehen bechinat chaya ra'a velistim. C'est pour ça que la Gemara dit là-bas que bien qu'on ait déjà la torche, on craint encore les bêtes sauvages et les brigands, c'est-à-dire les animaux et les hommes. Shem dvarim betelim vegava vetoldotehem, qui correspondent aux paroles vaines, qui sont liées donc à l'identité animale, Vega, Ava, Vitoldotem, et l'orgueil et ses dérivés qui relèvent donc de l'élément humain. Kalide, Dvarim, Betelim, Velachonara, Ba'aniyud. Alors, vous avez remarqué que, avant même d'avoir parlé avec le tzaddik, on s'est déjà débarrassé des quatre défauts. Ceux qui viennent du végétal et de l'animal. Non, pardon, du minéral et du végétal dans la rencontre avec le tzaddik. Quand on a donné la tzedaka, on se libère également de ce qui est animal et humain. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik en lui parlant? Ça, on trouvera encore autre chose. Parce que, avec les paroles vaines et la médisance, vient la pauvreté. Comme on chez Katou, ainsi qu'il est dit, car ils sont morts, tous ceux qui disaient de mal, du mal de toi. Et c'est ce que la Guémara dit, c'est la pauvreté. De même, pour ce qui est de l'orgueil, il est dit dans la Guémara que un des symptômes de l'orgueil, c'est la pauvreté. Or, quand on donne la tzedaka, on s'enrichit. Comme on dit les sages, il y a un verset qui est interprété comme disant que quand on donne la tzedaka, on sort de la pauvreté. C'est pour ça que la Guémara dit que dès que l'aube se lève, on est sauvé également des bêtes sauvages et des brigands. Amoud Ashachar, c'est quoi l'aube? Remes la tzedaka, cela veut dire la tzedaka. Kemo Shekatouv qui dirait Arom Kisito Azibaka Kashachar Orecha. Il y a un verset dans Ishayahu qui met un rapport entre revêtir celui qui est démuni et l'aube. Nimtsa Alide Tzedaka, Nitzol Mimidot Raot Cheshne Isot Chaim Medaber, Shemkhinat Raya Velistim. Donc en donnant la tzedaka, on est libéré également des deux éléments animal et humain, qui sont les bêtes sauvages et les brigands. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la troisième? Alors après, vous avez Vabechina Hashlishit, c'est écrit dans le texte que Yaakov a effacé. Alors ça, et nous le verrons, Vezrat Hashem, la prochaine fois. Shalom.